Bonjour à tous. C'est toujours une grande responsabilité de se tenir devant vous. Et avec l'aide de Dieu, j'irai jusqu'au bout. Je vais commencer par une question. Qui était présent ici le 14 janvier 1996? 1, 2, 3. Il y a quelques-uns. Bon, je suis désolé pour ceux qui étaient là, ce jour-là, parce que je veux reprendre le même sujet, le même texte. Ceci dit, ce n'est pas étonnant, puisque même quand on lit la Bible plusieurs fois, ce que je vous souhaite, on revient toujours sur les mêmes textes. On est bien d'accord. Ce texte que nous allons lire, qui va être projeté pour ceux qui n'ont pas leur Bible devant eux, ouverte, il s'est imposé à moi par, je vais dire, l'actualité, par l'air du temps, ce qui se passe autour de nous, m'a fait penser à ce que j'ai partagé il y a 23 ans, ici. C'est toujours d'actualité. Donc je vais le partager à nouveau. Et pour la première fois, pour ceux qui l'entendent pour la première fois. La Bible revient très souvent sur ce sujet. C'est le sujet des faux enseignements. Des faux prophètes et même des faux Christ, des erreurs, des discours séduisants, etc. Nous allons aborder ce sujet. Il se trouve que ce que je vais vous partager fait partie d'une série. Je ne suis pas garanti de pouvoir faire l'ensemble, mais je me suis senti obligé de commencer par le début. Je lis avec vous ce texte, enfin vous suivez, c'est dans la version du Semeur, la Bible du Semeur, qui n'est pas la version que j'utilise habituellement, j'utilise plutôt la seconde 21, mais je trouve le texte assez clair et bien formulé dans la Bible du Semeur. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse à l'église locale de Colosse. Ce n'est pas une église qu'il a visitée, même fondée, je ne suis pas sûr. En tout cas, il s'adresse aux chrétiens de Colosse et il leur dit « Je tiens en effet à ce que vous sachiez combien rude est le combat que je livre pour vous et pour les frères et sœurs qui sont à Laodicée. » Laodicée, c'est une église dont il est question dans l'Apocalypse, les sept églises auxquelles l'apôtre Jean écrit, comme pour tous ceux qui ne m'ont jamais vu personnellement. On pourrait exagérer et dire que nous sommes concernés du coup. Non, mais ce n'est pas de ça qu'il parle. Je combats pour eux afin qu'ils soient encouragés et que, unis par l'amour, ils accèdent ensemble en toute sa richesse à la certitude que donne la compréhension du secret de Dieu et la pleine connaissance de ce secret, c'est-à-dire de Christ. En lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. J'affirme cela afin que personne ne vous égare par des discours trompeurs. Car même si je suis physiquement absent, je suis avec vous par la pensée. Et c'est une joie pour moi de constater l'ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Bien que l'apôtre Paul connaisse la fermeté de la foi des Colossiens, il le dit au début du chapitre, vous n'avez pas besoin de chercher, je vous le rappelle rapidement. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous prions sans cesse pour vous. Nous avons en effet entendu parler de votre foi en Christ Jésus et de l'amour que vous avez pour tous les saints. Donc l'apôtre Paul est au courant de la foi ancrée en Christ des Colossiens. Bien qu'il le sache, il va appliquer aux Colossiens dans sa lettre un traitement préventif. Vous allez me dire, ils ne seront pas malades. En fait, le traitement préventif, c'est jamais pour les malades. C'est pour ceux qui ne sont pas encore malades. On est bien d'accord. Et c'est quoi ce traitement? Il prie pour eux. Il prie pour eux et c'est une prière particulière. C'est un combat, un dur combat. Il dit que c'est une lutte, c'est un combat spirituel. La Bible dit que ça se joue, le combat dans lequel nous sommes tous engagés, chrétiens, ceux qui ont la foi en Christ, c'est un combat spirituel. Ce n'est pas nos corps, ce n'est pas la chair et le sang, bien que dans la chair, on a nos luttes, mais c'est un combat qui se joue dans les lieux célestes. C'est un combat spirituel, avec des vraies puissances. Et ces puissances agissent dans le monde. En tout cas, l'esprit du monde est manipulé par ces puissances. Face aux erreurs qui menacent l'église de Colosse, on lit ailleurs, dans d'autres ouvrages et dans d'autres références, qu'il y avait à ce moment-là des personnes qu'on appelle les gnostiques, mais il y en avait d'autres aussi. Il y avait pas mal de sectes et de groupements de toutes espèces de croyances qui gravitaient autour des chrétiens de l'époque. Et leur enseignement menaçait la foi des chrétiens de Colosse, selon Paul. Donc, il prie pour eux. Et vous savez, dans toutes les lettres de Paul, on apprend beaucoup à travers ses prières. Et ce combat qu'il mène, le terme qui est employé dans l'original, c'est un terme dont est venu le verbe agoniser. C'était une véritable lutte dans ses tripes, quoi. Et pourquoi l'apôtre Paul mène un tel combat? Il le dit un peu plus loin dans le passage que nous avons lu, au verset 4. « Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. » Des discours trompeurs, des discours quand même plausibles, qu'on peut croire, qui sont persuasifs. L'apôtre Paul nous enseigne ici par sa prière. Il dit qu'il souhaiterait, il demande à Dieu qu'ils évitent, qu'ils résistent aux faux enseignements. Nous pouvons résister aux faux enseignements. Voilà l'enseignement essentiel que nous pouvons tirer de la prière de l'apôtre Paul. Nous pouvons résister aux faux enseignements et à l'attrait des faux prophètes qui va s'accentuer au fil du temps. Nous pouvons résister aux faux enseignements, mais comment? Comment résister? L'apôtre Paul nous l'explique dans sa prière, nous le dit, et dans sa lettre, puisqu'il écrit. Tout d'abord, en ayant le cœur consolé ou encouragé, si on veut l'exprimer autrement. Mais consolé, c'est bien. Le vrai terme, là, c'est consolé. Afin que leur cœur soit consolé. Je lutte dans la prière afin que leur cœur soit consolé. Le cœur, c'est quand même, c'est le foyer intime de l'homme. On est bien d'accord, de la vie de l'homme. Ce n'est pas pour rien que la Bible, dans Proverbes 4, versets 20 à 23, dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ça, c'est un verset que j'ai appris quand j'étais enfant. Il y en a, ils sont nombreux. Mais c'était une corvée à l'époque d'apprendre ces versets. La monitrice d'école du dimanche et de club du mercredi, du jeudi à l'époque, nous organisait des concours pour stimuler notre sens de la compétition. Et comme ça, on a pu apprendre beaucoup de versets bibliques. Mais à l'époque, je ne comprenais pas toujours la portée des versets. Quand je suis devenu un jeune homme, ce verset-là m'est revenu très souvent à l'esprit. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc le cœur consolé, l'apôtre Paul dit, je prie pour eux, pour qu'ils aient le cœur consolé. Nous pouvons résister aux faux enseignements en ayant le cœur consolé. Parce qu'un cœur insatisfait, le cœur insatisfait, troublé, c'est vulnérable. C'est très vulnérable. Le cœur insatisfait, ça entraîne chez nous, ça va de pair avec un cœur insatisfait, l'inquiétude, la peine, ça peut être à la fois la cause, les conséquences, tout ça, c'est pas carré, carré. L'angoisse. Et tout cet état-là dans nos cœurs, ça fait de nous des poids, des discours séduisants. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il a été question à un moment donné en France d'une lutte contre les sectes. Pour les moins jeunes, de temps en temps, ça revient dans l'actualité. Et l'une des particularités des sectes, en tout cas de toute personne qui cherche à convaincre et imposer ou faire passer une philosophie et entraîner des gens à sa suite, la technique est souvent, enfin les cibles sont souvent des gens qui sont en état de faiblesse, des gens troublés, ils sont plus vulnérables, des gens insatisfaits à la recherche de quelque chose, plus ou moins clair. Et dans nos jours, de plus en plus, on recherche quoi ? On recherche l'inédit, on recherche la nouveauté, on recherche le remède miracle, on recherche une compensation à cette vie difficile, socialement, humainement, économiquement, etc. Mais le cœur consolé, c'est un cœur en paix, à l'abri des discours séduisants. Vous savez, cette paix dont parle la Bible, dans Philippiens 4, 7, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. C'est encore l'apôtre Paul. Il insiste. Il écrit aux Thessaloniciens, aux Philippiens, je veux dire. Thessaloniciens aussi, il dit à peu près la même chose. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs. D'ailleurs, il ne dit pas que la paix garde. Il dit la paix de Dieu gardera vos cœurs. Il ne dit pas qu'elle garde. Ce n'est pas un souhait. Il dit que ça se fera. Et vos pensées dans le Christ Jésus. L'apôtre Paul nous enseigne donc là que nous pouvons résister aux faux enseignements, aux faux prophètes. Le prophète dans la Bible, c'est celui qui annonce la parole de Dieu ou qui dit annoncer la parole de Dieu. Il y a des faux prophètes aussi dans la Bible. Nous pouvons résister en ayant le cœur consolé. Avons-nous aujourd'hui le cœur consolé, vraiment consolé ? à chacun de répondre précisément dans son cœur. Mais consolé par qui? Par quoi? Jésus, quand il a quitté la terre, il leur a dit aux disciples et à nous par la même occasion qu'il y aura un autre consolateur, un autre. Autrement dit, le premier c'est qui? C'est Jésus lui-même. Il viendra un autre consolateur, on reviendra là-dessus. Donc c'est promis, il sera appelé à côté de nous et même en nous. Mais le terme vraiment qui traduit par consolateur, c'est qui est appelé à côté d'eux. L'idée est intéressante. Moi qui étais un soignant pendant 42 ans, je peux vous dire qu'il arrivait que certains patients, puisque j'ai travaillé en psychiatrie, on n'avait pas forcément de solution. Et on ne parlait pas de guérison. On ne parle toujours pas d'ailleurs. Mais pour certains patients, il suffisait d'être à côté. D'être à côté d'eux, à côté de lui, d'elle. Et ça suffisait pour calmer l'angoisse. Mais on connaît tout ça. Vous regardez les enfants. Il suffit que les parents soient à côté pour qu'ils soient rassurés. C'est ça, le consolateur. L'idée dans ce terme-là, le consolateur, c'est ça. Il est à côté. Et il est même en nous. Il est partout, autour de nous. Mais en réalité, le Saint-Esprit, c'est qui? C'est Dieu. On est bien d'accord. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est Dieu qui console. 2 Thessaloniciens 2, versets 16 à 17. Ne cherchez pas, je vais vous le lire. Restez concentrés. 2 Thessaloniciens 2, versets 16 à 17. C'est toujours l'apôtre Paul qui parle aux Thessaloniciens. C'est toujours la même idée. Mais je vais commencer au verset 15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes. Et retenez les instructions que nous vous avons transmises, soit de vive voix, soit par lettre. Il serait intéressant qu'on garde cette recommandation-là pour nous, soit par lettre. Retenez les instructions que nous vous avons transmises, soit par lettre. Donc nous, c'est par lettre. On ne l'a jamais vu, l'apôtre Paul. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, et Dieu notre Père, qui nous a aimés et nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute œuvre et parole qui soit bonne. Que le Dieu et que Christ lui-même console vos cœurs et vous affermisse en toute œuvre. Les Thessaloniciens avaient donc besoin aussi de cette consolation. Où trouver cette consolation? Certes, Dieu la donne. Mais vous savez, comme tout ce que Dieu donne, si on ne le prend pas, ce n'est pas à nous. Nous sommes bien d'accord. Le salut, Dieu donne gratuitement. Et c'est quoi le geste que nous devons faire? Accepter par la foi. Et la consolation, on la trouve dans les Écritures, dans la Bible. Romains 5, verset 4, beaucoup connaissent ce verset. Romains 15, verset 4. J'ai une Bible qui est déjà un peu âgée, comme le bonhomme. Et de temps en temps, les pages sont récalcitrantes. Or, quand on dit « or », on a envie de lire ce qui précède, mais on n'a pas le temps. « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, encore le mot d'instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. La consolation de Dieu, nous allons la trouver dans la Bible, la parole de Dieu. Certainement qu'il va utiliser d'autres moyens, des frères et sœurs, peut-être même des amis qui ne le connaissent pas d'ailleurs. Il est fort, hein, il est fort. Il utilise des choses parfois qui nous étonnent, qui nous surprennent. Nous pouvons donc résister aux faux enseignements en ayant le cœur consolé. Rappelons-nous bien, en ayant le cœur consolé. Et la consolation, on la trouve dans la parole de Dieu. Mais l'apôtre Paul dit aussi, en étant unis dans l'amour. Des fois, il y a certains textes bibliques, en tout cas moi, ça me fait cet effet-là. J'ai l'impression de les avoir entendus, je ne sais pas, pas mal de fois. Évidemment, je ne suis pas tout jeune. Et je lis la parole de Dieu depuis l'âge de 6 ans, à peu près. En tout cas, je l'entends. Je ne l'ai pas lu régulièrement au début. Et en étant unis dans l'amour, la Bible parle en long et en large de l'amour. Nous sommes d'accord ? Depuis le début jusqu'à la fin. Qu'ils soient unis dans l'amour. Ils luttent pour les Colossiens et pour nous par la même occasion. Que nous soyons unis dans l'amour. Le terme là qu'il emploie, qu'on a traduit par « unis », certains le traduisent par « tisser ensemble ». Je ne sais pas si vous voyez un tissu. Quand vous voyez fabriquer un tissu, et les fils au départ dans les pelotes, et ce que ça devient, c'est difficile de les séparer les uns des autres, une fois qu'ils sont tissés. Comme soudés ensemble. C'est ce terme-là qui est employé là, ici, pour dire « unis ensemble par la puissance de l'amour ». La puissance de l'amour. Ailleurs, l'apôtre Paul dit, en Colossiens toujours, au chapitre 3, verset 14, « Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. » Juste avant, il donne un certain nombre d'encouragements, de consignes, d'ordres, d'exhortations, appelez-le comme vous voulez. Revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. On retrouve ici les fruits de l'Esprit, d'accord ? Ce que produit l'Esprit de Dieu en nous, le Consolateur, hein, il produit cela en nous. Supportez-vous les uns les autres. Faites-vous grâce réciproquement. Faites-vous grâce. Gracier quelqu'un, c'est ne pas tenir compte de sa faute, même s'il mérite une condamnation, notre colère, lui faire grâce. Faites-vous grâce réciproquement, etc. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et juste après, que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Vous voyez, la paix est toujours avec le cœur consolé, mais aussi avec l'amour. Par-dessus tout. En Philippiens 2, il nous est dit, l'apôtre Paul dit aux Philippiens, il leur recommande d'être d'une même pensée, une même âme, un même amour. Évidemment, si on est soudés les uns aux autres, comme tissés ensemble, c'est le même amour. Un amour qui vient de Dieu, un amour que Dieu met dans nos cœurs. On ne pouvait pas trouver cet amour quelque part ailleurs. L'absence d'amour, je ne sais pas si vous avez déjà connu ça, de vous sentir pas aimé, voire mal aimé, ça provoque une insatisfaction profonde au fond de notre être. Et dans l'Église, comme dans toute famille, l'absence d'amour ça provoque des disputes. Ça provoque des divisions. Et les divisions, les disputes, ça nous prédispose à l'erreur. Ça nous prédispose, ça laisse des brèches pour les faux enseignements, pour toute espèce de discours séduisant. C'est pas évident comme ça en le disant, mais je vous assure que là où il n'y a pas d'amour, il y a toute espèce d'esprit mauvais et de pensée méchante et mauvaise qui s'installe, malgré nous, malgré nous. Et 1 Corinthiens 13, vous connaissez, 1 Corinthiens 13. Si vous ne connaissez pas, il faut l'apprendre. 1 Corinthiens 13, j'ai encore rencontré personne qui a trouvé une meilleure définition de l'amour. D'accord ? Et verset 3, vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans l'église, dans votre famille. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. C'est-à-dire que sans amour, toutes les belles actions qu'on peut faire ne servent à rien. D'ailleurs, ça ne tient pas la route sans amour. La motivation n'est pas saine sans amour. Ce sont des choses que l'on dit très facilement. Ce sont des choses qu'on conçoit intellectuellement très facilement. Mais vous avez dû remarquer comme moi que nous faisons quand même pas mal de choses sans amour. Vous êtes d'accord? Donc là, on a des efforts à faire. Et je comprends que l'apôtre Paul prie pour les Colossiens, pour qu'ils soient unis, soudés, tissés dans l'amour, ensemble, par la puissance de l'amour. Nous pouvons donc résister aux faux enseignements. Nous pouvons résister aux faux enseignements, aux discours séduisants, à l'attrait des faux prophètes, parce que c'est attrayant, hein. Il y a des philosophies aujourd'hui, je vais dire plutôt orientales. Quelqu'un a dit, le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. Mais comme il l'est, puisque nous sommes au 21e siècle, il est forcément religieux. Mais religieux, il y a religieux et religieux, quoi. De quoi s'agit-il? Des philosophies? On verra un petit peu plus tard, où il manque quelque chose, ou plus précisément quelqu'un. Nous pouvons résister aux faux enseignements. Si vous ne retenez pas ça, le nombre de fois que je l'ai répété, c'est que j'ai raté. En ayant le cœur consolé, en étant unis dans l'amour. Ça va ensemble, on ne peut pas aller sans l'autre. Il dit, en étant enrichi, pour qu'il soit enrichi, ah tiens, intéressant, ça vous intéresse? Enrichi, en étant enrichi dans notre compréhension. Dans la seconde 21, il dit, pour qu'il soit uni dans l'amour, enrichi d'une pleine certitude de l'intelligence. Il y a des formules comme ça de l'apôtre Paul, ou dans la Bible, où chaque mot, vous savez, c'est inspiré de Dieu. On est d'accord? Si vous n'êtes pas d'accord, c'est même pas la peine de m'écouter. Si on ne croit pas dans l'inspiration et l'autorité de la Bible, c'est pas la peine. L'enseignement ne va pas nous parler. La parole de Dieu est inspirée de Dieu. Et elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Enrichie. Pour qu'ils soient enrichis dans leur compréhension, dans leur intelligence. Et il insiste, hein, il le replante plus loin dans l'épître, avec d'autres mots, mais il insiste. Et la notion de richesse et de trésor, elle est dans ces cinq versets. pour qu'il soit affermi, c'est-à-dire bien ancré dans les certitudes. Ce n'est pas à la mode, le mot certitude. Ah oui, mais tu as des certitudes. Vous avez remarqué qu'il n'y a plus d'absolu aujourd'hui. Et les gens recherchent quelque chose qui ne bouge pas avec le temps et avec les politiques et avec de l'absolu. Pour qu'ils soient enrichis dans leur compréhension, dans leur intelligence. Et c'est quoi cette certitude? Cette pleine intelligence. Ailleurs, dans certaines traductions, on a ce terme-là. Pleine intelligence. D'ailleurs, il y a 3 ou 4 fois dans le Nouveau Testament, pleine intelligence, pleine espérance. C'est souvent utilisé cet adjectif-là, pleine, bien complet, pleine intelligence et certitude, pour qu'il soit bien riche. En fait, plus nous connaissons et comprenons la foi en Christ, on ne la comprend pas une fois pour toutes, plus nous la comprenons et plus nous sommes convaincus de sa véracité. C'est un peu comme l'appétit qui vient en mangeant, vous voyez ? Plus on sonde les Écritures et plus on comprend et plus on est convaincu de sa véracité. Et moins on risque d'être détourné de la vérité, des fondamentaux, de ce qui est fondamental, de ce qui est fondement, ce qui fonde notre foi. C'est important, le fondement. Il y a une semaine, j'étais à un mariage d'un membre de notre famille, et ce qui réjouit le cœur, ils sont très jeunes, vraiment très jeunes, tout juste sortis de l'adolescence. Mais il y a une chose qui réjouit le cœur et qui rassure, c'est qu'ils ont un fondement solide pour leur vie de couple, à savoir Dieu lui-même et la parole de Dieu. Les fondements sont importants. Donc nous ne risquons pas d'être détournés si dans notre intelligence, nous saisissons et nous sommes enrichis dans la parole de Dieu, évidemment. Puis nous comprenons la foi en Christ. C'est ça un chrétien, c'est quelqu'un qui a la foi en Christ. On est d'accord? En fait, c'est cette intelligence qu'on peut nommer le discernement spirituel, qui donne le discernement, qui nous permet de distinguer ce qui est juste de ce qui est faux, de ce qui est vrai de ce qui est faux. Aujourd'hui, on va dire, puisque nous sommes dans une période où tout est relatif, chacun sa vérité. Eh bien non. Il y a une vérité fondamentale que Dieu a révélée et on va y arriver. Elle est cachée, mais on va y arriver. Nous pouvons résister aux faux enseignements et aux faux prophètes en ayant le cœur consolé, en étant unis dans l'amour et en étant enrichis dans notre intelligence, une pleine intelligence, qui conforte nos certitudes, mais aussi, on va terminer par ce point, en connaissant le mystère de Dieu, ou le secret de Dieu, comme je l'ai lu dans certaines traductions. Dans la traduction qu'on a lue tout à l'heure, elle parle du secret de Dieu. Pour connaître, il dit, enrichi d'une pleine certitude de l'intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Curieusement, lorsque j'ai étudié la philosophie il y a bien longtemps, j'étais enseigné dans la parole de Dieu, et la philosophie, c'est l'amour de la sagesse, nous sommes bien d'accord, c'est la traduction de mots, m'a éloigné de la parole de Dieu. J'ai tout envoyé valdinguer. J'ai tout rejeté en bloc. avec des grosses discussions, voire disputes avec mon père, notamment. C'est ces philosophies-là dont parle l'apôtre Paul un petit peu plus loin, les discours persuasifs et les enseignements faux, qui sont beaux, qui tiennent, qui sont intéressants dans les discussions, etc. Mais qui ne peuvent servir de fondement pour une vie à la gloire de Dieu. En connaissant ou en pénétrant, le terme qu'il emploie là, c'est ça, connaître, en pénétrant le mystère de Dieu, à savoir Christ. En Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse. C'est très recherché aujourd'hui, la sagesse. Quelqu'un m'a offert un livre où trois hommes, un philosophe, un psychiatre, et l'autre c'est un moine tibétain, discutent entre eux, des gens que je respecte et qui disent des choses intéressantes, qui débattent sur le bonheur, qui débattent sur le sens de la vie, etc., etc., de la sagesse, comment l'acquérir. C'est très à la mode, la sagesse. La Bible dit plus loin, Colossiens 2, verset 8, c'est toujours l'apôtre Paul, et il s'adresse toujours aux Colossiens, et il continue son développement. Verset 8, car en lui habite corporellement, toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude. Ça ne vous paraît pas... C'est un peu exagéré. Hein? Toute la plénitude de la divinité habite corporellement en lui. Hors de lui, hors de Christ, il n'y a pas d'expérience qui serait plus enrichissante à vivre, ni d'autres connaissances à acquérir, ou d'autres mystères profonds à sonder concernant Dieu. Je dis bien concernant Dieu. Je ne suis pas en train de dire aux plus jeunes ou même aux plus vieux de ne plus apprendre et de ne plus s'instruire. Ce n'est pas ce que je dis. Et Dieu a encore d'autres expériences à nous faire traverser. Mais concernant Dieu et la personne de Dieu, il n'y a rien d'autre que Christ. C'est la seule vraie connaissance cachée. Pourquoi j'insiste sur le terme caché? Parce que certaines philosophies vont vous dire qu'il y a des choses cachées et que seuls les initiés pourraient y avoir accès. Eh bien non, non. La Bible dit que nous pouvons accéder ensemble en ayant le cœur consolé, unis dans l'amour et enrichis dans notre compréhension, nous pouvons accéder au secret de Dieu. Christ. Dieu s'est révélé en Christ. Dieu nous a parlé, Hébreux, chapitre 1, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces derniers jours qui sont les derniers. Je me suis toujours posé la question, mais pourquoi il y a des choses comme ça? En ces derniers jours qui sont les derniers. Il insiste. On a l'impression qu'on lit l'apôtre Paul, hein, ça ressemble beaucoup. Il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être soutient toute chose par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine. Dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien différent du leur. Il est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être. Il disait de son vivant, « Qui m'a vu ?» a vu le Père. Et nul ne peut venir au Père que par moi. Christ est central dans la manière que Dieu a choisi de se révéler. Pas besoin de chercher ailleurs. Et si quelque chose d'ailleurs vient d'ailleurs, on peut la recevoir, On peut l'entendre, on peut la comprendre, on peut l'étudier, mais ça ne va pas nous révéler les mystères et les secrets de Dieu. En fait, pour connaître quelqu'un vraiment, qu'est-ce qu'il faut faire? Passer du temps avec. Pour connaître quelqu'un vraiment, il faut vivre avec lui. Au moins un petit peu quand même. Dans son intimité. Il faut la fréquenter. Il faut marcher en sa compagnie. D'accord? Il faut être avec lui. Il faut l'écouter. Dieu nous a parlé par le Fils. Comment connaître le Fils? Sinon qu'à travers la parole de Dieu. Il y a un chant que j'aime beaucoup dans un vieux recueil qui dit « En rêve, j'allais près du lac m'asseoir. C'est là qu'on rencontre le Galiléen, Jésus. » Je pense qu'à l'époque de Jésus, ça devait être particulièrement intéressant et comment dire, une expérience très particulière que de le rencontrer. Ça vous est déjà arrivé de penser à ça? Le rencontrer, parler avec lui, l'entendre parler, l'écouter. Mais c'est encore possible, mais il faut lire. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut en faire notre livre de chevet. Et là, nous allons découvrir les trésors de la sagesse et de la connaissance qui sont cachés en Christ, dans la parole de Dieu. D'ailleurs, la Bible appelle le Christ la parole. Nous pouvons donc résister aux faux enseignements, aux discours séduisants qui nous proposent autre chose que Dieu révélé en Christ. Ce n'est pas d'aujourd'hui, parce que l'apôtre Paul, il y a quelques milliers d'années quand même que c'est écrit. Et ça sera de plus en plus vrai. Nous pouvons le résister en ayant un cœur consolé dans la consolation que nous trouvons dans les Écritures, en étant unis dans l'amour, dans notre Église, entre nous, en famille, partout où Dieu nous appelle à vivre. C'est pour ça qu'il ne nous a pas retirés du monde d'ailleurs, c'est pour qu'on démontre l'amour. À l'amour que vous avez les uns pour les autres, on amènera les autres à Christ. En étant enrichi dans notre compréhension, dans notre intelligence, ce qui va renforcer nos certitudes, et en connaissant, en redécouvrant, jour après jour, en approfondissant le secret de Dieu qui est en Christ. On l'a juste effleuré là. Je vais vous laisser avec ce verset, 2 Pierre 2, 17 à 19. Je ne vais pas le commenter. Je vais juste vous le laisser, histoire de... Vous savez, quand on faisait des dissertations à l'école, on disait que c'était intéressant dans la conclusion d'ouvrir. Alors, on va ouvrir le débat. C'est un autre aspect, il aborde le sujet. Verset 17, il parle de qui, l'apôtre Pierre? Il parle des faux prophètes, des faux enseignants. Et il dit, ce sont des fontaines sans eau. Des nuages que chasse la tempête, l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours grandiloquents et creux, ils séduisent par les convoitises déréglées de la chair ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est l'esclave de ceux qui a triomphé de lui. C'est juste une autre idée, d'autres idées, mais il s'agit aussi là des faux prophètes. À méditer.